Il a été question de la Ausbund. Est-ce qu'on peut encore y avoir accès aujourd'hui?
Oui.
Est-ce qu'il existe quelque chose d'équivalent plus moderne, peut-être?
Pour demander l'historien, le cloud.
Le recueil Ausbund existe toujours et c'est toujours utilisé par les Amish aux États-Unis et au Canada. Je ne crois pas que c'est modernisé. Il reste vraiment ancré dans leur tradition. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que les cantiques sont presque tous de la Bible chantée. Les versets de la Bible chantée. Donc, même si ça n'a pas changé, la Bible non plus.
Par contre, si vous avez des idées pour des mélodies différentes, ce serait peut-être pas mal.
Vous avez décrit la Sainte Cène comme une réponse à Dieu. Est-ce que dans le cadre de la Sainte Cène, est-ce qu'une certaine louange n'est pas le bienvenu? Parce que j'ai déjà lu ça, d'autres organisateurs, ou plutôt des enseignants de louange, ont reçu ça à cœur de Dieu.
Je pense
je vous laisse le choix de savoir qui répond aux questions. Oui, bien sûr. En fait, il y a une dimension. Chaque ingrédient du culte, chaque moment du culte a plusieurs dimensions. Et la scène, à coup sûr, a plusieurs dimensions. Elle a une dimension peut-être de repentance. On est face à l'œuvre du Christ. Donc, la réaction logique, c'est de l'humiliation, de dire mais tout ça. Enfin, voilà, je suis pécheur. Il y a une dimension d'affirmation de la foi. J'ai dit tout à l'heure. Disons que c'est en Jésus-Christ seul que nous sommes sauvés. C'est ça le message de la scène, hein. C'est son salut, le salut vient de lui. Et il y a une dimension de reconnaissance, bien entendu. Alors après, le problème, c'est comment on fait rentrer tout ça dans 10 minutes. mais donc, on va orienter, on peut avoir un tel dimanche, un temps de scène qui sera particulièrement orienté vers la louange, la reconnaissance. D'autres moments, on va mettre en avant la repentance, l'affirmation de la foi, notamment la communion fraternelle, c'est le repas des disciples. Voilà, mais à condition que cette louange soit marquée par la scène. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quelle louange, c'est une louange qui est liée au temps particulier qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire une louange qui mettra en avant l'œuvre du Christ, reconnaissance pour ce qu'il a accompli. Voilà. Donc oui, je suis assez d'accord.
J'ai encore une question, c'est vrai,
pour compléter, si on place la louange d'habitude à l'entrée du culte, si on place la scène suite à la louange du culte, la louange est toujours au début du culte, donc ça passerait avant le message, est-ce que ça pose problème? Est-ce que c'est la plus tendance
Alors là, c'est encore autre chose, c'est une question d'organisation du culte. Donc on prend la scène, on la met avant. Alors beaucoup d'églises le font, hein, il y a une pratique qui est double. Il y a des églises qui, ça c'est la pratique traditionnelle protestante, on met la scène après la prédication. Mais moi j'ai grandi dans une église où la scène venait toujours avant la prédication. Donc ça existe aussi. Disons que le positionnement des ingrédients du culte, après, il y a une logique, il faut en avoir conscience et on ne met pas les choses n'importe comment, il faut que ça fonctionne. Ça passe avancer le dialogue, hein, comme disait Jenny, mais c'est pas non plus strictement figé. Je pense que la louange, il faut le comprendre, c'est l'état d'esprit du culte, c'est pas qu'un moment. Quand on lit la Bible, quand on est dans le temps de la parole, eh bien, il y a une louange implicite, c'est-à-dire merci Seigneur pour ta parole. Quand on prend la scène, c'est gloire à toi Seigneur pour cette œuvre incroyable que tu as accomplie en Jésus-Christ. Donc à chaque moment, la louange, elle imprègne tout le culte. Elle n'est pas seulement un moment, elle est un état d'esprit, et donc elle va aussi avec la scène.
Et dans ce sens, je dirais aussi, pourquoi pas, au lieu d'avoir 20 minutes de louange, des chants avant, couper ça en deux, et après la prédication, comme réponse à ce que le Seigneur a dit à travers la parole et la prédication, un moment de louange par le chant, parce qu'on est heureux, on a attendu, Dieu nous a parlé, et par notre réponse, on dit merci Seigneur. Et comme ça, ça aide à faire en sorte que cette question de louange traverse tout le culte, et ce n'est pas juste un moment à part. Juste une idée.
d'autres questions?
Dans les assemblées, il y a souvent quand même pas mal de débats hein, entre les anciens, les nouveaux, entre le fait qu'il y a des types de chants qu'on ne devrait pas chanter. Et on a souvent, moi j'ai l'impression qu'on argumente souvent le fait que les nouveaux chants sont moins conformes théologiquement à ce qu'on devrait chanter. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment vérifier ou est-ce que c'est juste l'argument de ceux qui savent et qui théologiquement sont fondés pour éviter qu'on aille vers quelque chose de plus moderne et de plus actuel?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de débats. Je dirais que la première chose, c'est qu'il ne faut pas caricaturer les positions. Hein. C'est très facile de... Moi, je peux prendre... Je ne vais pas le citer parce que... Je ne vais pas citer un nom, mais il y a... On peut facilement prendre dans J'aime l'Éternel un cantique qui est idiot, quoi, qui n'a rien à faire dans ce recueil. Il est arrivé par hasard, je ne sais pas comment. Bon, voilà, mais on ne peut pas comparer le plus mauvais d'une tradition au meilleur d'une autre. Parce que dans la tradition ancienne, il y a aussi des trucs pas terribles qui sont là. Donc, ce qu'il faut, c'est pas caricaturer les positions, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans chaque, dans la, les mouvements de louange contemporains et qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans l'héritage que nous avons reçu et essayer de bâtir sur ce meilleur. Ensuite, sur la théologie des nouveaux chants, alors Jenny en dira un mot, c'est plus son sujet, mais ce que je dirais, c'est que je ne suis pas sûr que les nouveaux chants soient théologiquement moins corrects que les anciens. Je pense que c'est plutôt qu'ils développent moins, ils ont une théologie moins développée, moins élaborée, moins construite. Donc ils prennent un thème théologique, ils le disent, et puis c'est tout. Dans certains cantiques plus anciens, on a un mouvement théologique qui est plus ample, avec une théologie qui se déploie au fil de plusieurs strophes. Donc c'est plutôt ça, c'est pas le principe en lui-même. Je crois pas que les chants d'aujourd'hui soient plus hérétiques que les anciens, j'espère en tout cas, parce que ça serait mauvais signe, puisque nos chants reflètent l'état de l'Église, hein, donc ça serait un petit peu inquiétant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin aujourd'hui d'une nouvelle génération de compositeurs. On a eu de belles choses au XXe siècle, d'autres plus contestables, mais on a besoin aujourd'hui d'une nouvelle génération avec des gens qui composent, qui soient de bons musiciens, qui se mettent en équipe avec des poètes, avec des théologiens, des pasteurs, et que tout ce beau monde, là, autour d'une table, eh bien, parvienne à nous composer des cantiques pour le XXIe siècle.
Je dirais que oui, je suis d'accord avec lui. Je crois qu'il faut avoir un équilibre et puis au pasteur, un petit peu prédicateur, de veiller qu'à la longue, qu'on a des chants qui sont solides théologiquement ou qui ont plus dense théologiquement, mais aussi les autres. Et c'est pour ça que j'ai parlé un peu des cantiques et les chants de louange. Il y a une cantique qui développe l'idée et le chant de louange qui peut être un appui sur ça, comme plus contemporain. On a besoin des racines et des ailes. Il faut les deux.
Il y a quand même plusieurs curieux qui aimeraient savoir de quel chant tu parles, donc on te donnera pas de pas tant que tu ne diras pas.
Je ne vais pas le dire, mais vous chercherez dans... Il y a un truc, c'est un truc du genre, j'ai pas grand chose à dire, mais je le dis quand même.
On coupera ça sur les enregistrements. Autre question.
Et juste une chose. Il ne faut pas croire que tous les cantiques vaut le coup d'être chantés. Peu importe le chant, il faut évaluer tous les chants, sans exception. Ce n'est pas parce que c'est une cantique qu'il faut le chanter, parce que c'est une cantique. Il faut vraiment évaluer ce que vous allez faire cet après-midi, je crois.
Oui, c'est juste un principe de chant. Dans certaines églises, jeunes églises, je dirais, beaucoup de chants ou des phrases, les strophes sont répétées 4 ou 5 fois. Et ça, pour moi, ça fait l'effet contraire à la louange extraordinaire. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un principe? Est-ce que ça fait pour répéter, pour qu'on insiste? Mais vraiment, ça ressemble.
Oui, je comprends, ça peut être énervant. Enfin, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui, c'est quelque chose que moi je rattache au mouvement charismatique, hein, où on a cette habitude de répéter donc la dernière strophe, ensuite les trois derniers vers de la dernière strophe, ensuite les deux derniers vers, ensuite le dernier vers, ensuite les deux derniers mots, etc. Bon. Donc oui, ça peut être énervant. L'avantage, c'est qu'on a appris le chant quand on est sorti du culte. On a recueilli le cantique. Hein. Moi, j'ai appris beaucoup de chants comme ça. Je crois que ça peut être bien, si c'est bien fait et si on n'en abuse pas. Je pense que la notion de répétition, elle n'est pas en soi mauvaise. Hein. On la pratique tout le temps, on se répète quand on parle, on reformule. Donc, c'est pas en soi un problème, mais quand ça devient caricatural, là, je suis d'accord que bon, faut, à un moment donné, il faut s'arrêter. Mais néanmoins, il peut y avoir des effets musicaux intéressants qui conduisent à la prière, ou le fait de répéter une phrase qui est riche en soi, ça peut être positif pour la foi aussi.
Oui, mais il faut aussi savoir qu'il y a certaines personnes plus jeunes qui sortent de culte encore ces vieilles cantiques. Oh là là, ça m'énerve, j'en ai marre. Donc, quand je parle de l'un des objets du culte, c'est l'édification de l'assemblée. Il faut prendre tout le monde en compte et puis peut-être ça, c'est un don que tu peux offrir à quelqu'un d'autre. Chanter leur chant malgré que ça t'énerve. Et vice-versa, c'est à double sens. Hein.
Ce que je trouve difficile, c'est de chanter du mauvais français. Une fois, j'étais dans une église mennonite en visite et je n'ai rien compris au français. Ça ne voulait rien dire, c'était même pas du niveau CM2. Et du coup, que font les prédicateurs ici présents quand ils voient des textes qui ne font pas, enfin, des mauvaises notes à l'école avec. Sans parler du contenu théologique, genre.
Tu peux appuyer sur stop deux fois et sortir la carte SD.
Comment ça se fait que je peux proposer des chants qui ne veulent rien dire? C'est
tout autre chose, la question. Oui, je suis assez d'accord. Hein. Je pourrais probablement approprier la remarque. Que moi aussi, il y a des fautes de français qui me paraissent déraisonnables. Je me dis que c'est quand même incroyable que l'auteur ne fasse pas relire ces cantiques à des gens qui ont des fautes de français. Je ne sais qui. Travailler en équipe, là aussi, a besoin d'être développé. Je pense qu'il y a des anglicismes. Ça, c'est regrettable. Alors, il y en a parfois qui sont passés dans un mariage courant, donc bon, ça, on peut les admettre. Mais il y a des problèmes de traduction, il y a des problèmes de grammaire, et puis il y a des problèmes de sens aussi. Oui, oui, tout à fait.
Mais c'est pas que la traduction, parce qu'il y a des francophones qui disent je fais le plein quand tu me rejoins, des trucs comme ça. Je veux dire, on ne va pas la station essence.
Oui.
Que ta chépina soit reconnue au milieu des nations, en fait.
Non, ça c'est autre chose. Ça c'est les courants un peu sionistes, hein, avec la musique d'Israël, etc. Et donc ça c'est contestable théologiquement, mais c'est une autre question. Mais il ne faut pas exagérer. Je pense qu'on peut toujours, même dans les prédications, même dans certaines traductions bibliques, il y a des choses un peu étranges, des formules. Alors je dirais que là encore il faut viser la qualité. S'il y a vraiment une grosse faute de grammaire dans le chant, il suffit qu'on n'est pas obligé de le chanter. Hein. On peut éventuellement le corriger, mais c'est un petit peu délicat parce que quand on se retrouve avec d'autres églises, on n'a plus les mêmes paroles. Moi, parfois, je suis obligé de corriger certains cantiques. Mais ça me gêne un peu de faire chanter avec l'assemblée des fautes de français tous les dimanches. Je suis peut-être puriste, mais c'est vrai.
Et moi, je
ne
suis pas de naissance francophone et le français m'étonne qu'avec une belle langue comme le français, on le massacre dans des chants. Et si c'est le cas, je crois qu'il faut soit réécrire, traduire autrement ou ne pas chanter.
À moins que ce soit des chants créoles qui sont du français et différents. Ce que tu citais là, ça peut être du créole, donc on peut l'accepter. D'accord, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça serait bien.
Je peux te donner les chants
différents. Oui, juste une petite remarque par rapport au français. Je suis tout à fait d'accord. Mais je me rappelle, il y a quelques années, on était dans une église et c'était un cantique. Alors je me rappelle plus tôt, mais il y avait une expression, on parlait des saints transports. Et je me suis dit, alors c'est vrai que c'était du français voilà, très correct, mais très désuet. Et je me suis dit, mais bon sang, les jeunes dans l'assemblée, je veux dire, pour eux, les saints transports, ça évoquait autre chose. Voilà, je veux dire, les caillassages de bus. Non, mais c'est, voilà, il y a un décalage. Alors là, ce n'est pas une question de traduction, mais voilà, il y a un problème aussi d'adaptation.
Oui, oui, c'est un autre problème. Alors, au niveau des paroles, il y a les problèmes d'un français désuet, il peut y avoir des problèmes de patois de Canaan, hein, de clichés bibliques ou théologiques, il y a des problèmes de grammaire, d'orthographe qu'on a évoqué. Donc il y a toutes sortes de difficultés. C'est vrai qu'il faut être équilibré dans nos critiques, ça je suis bien d'accord. Je pense que
les chants, idéalement, tels que je conçois les choses, hein, mais je sais que parfois les compositeurs sont, on va dire, travaillent seuls, ils aiment travailler seuls, mais idéalement, si on pouvait travailler en groupe, ça permettrait d'éviter des choses comme ça. Ça serait tellement facile d'éviter les problèmes, de vérifier que tout le monde comprend ce dont il est question, qu'on n'a pas fait trop de fautes, c'est sûr. Ouais.
Une chose qu'il faut peut-être réaliser aussi, c'est qu'il y a beaucoup de chants qui sont traduits d'anglais. Et quand j'ai fait mes études, il y avait aussi des musiciens bien connus qui ont fait les études aussi. Et ils ont dit que, ben, attention, on est des poètes, on écrit ces chants pour nous. Ce n'était jamais conçu comme chants d'église. Et c'était les maisons d'édition qui ont pris parce qu'ils ont dit que ça va vendre. Et puis, ils prennent nos chants et ils traduisent pour le vendre. Bon, ils sont concernés que le contenu, mais c'est aussi beaucoup sur le ventre. Et c'est maintenant que certains compositeurs commencent à composer des chants d'assemblée, parce que c'est différent. Donc, parce qu'eux, ils ont dit, mais attends, on n'a jamais programmé ça, il ne faut pas nous critiquer. Mais c'est aussi une idée. Et c'est aussi peut-être un mot pour vous tous qui savent écrire la musique ou parolier, mais faites seulement, comme ça on aura moins de choses traduites de l'anglais.
Voilà, peut-être une dernière remarque. Oui, il y en a encore deux. Alors, priorité aux dames.
Alors, moi, c'est simplement un petit témoignage que je voudrais donner parce que je me suis convertie grâce au chant. Je ne suis pas du tout d'origine mennonite. Et je suis allée écouter des jeunes qui chantaient tout simplement leur foi. Et à cette époque, ce qui m'a frappée, ce n'était pas tellement les paroles parce que je ne sais pas si j'ai vraiment tellement bien écouter les paroles, mais c'est ce que ces jeunes transmettaient. J'avais l'impression, je me posais des questions, parce qu'à cette époque, j'avais 18 ans, et je ne comprenais pas que des jeunes de 18 ans pouvaient chanter le Seigneur. Et j'avais l'impression, vraiment, qu'en les regardant, ils vivaient vraiment, ils croyaient vraiment ce qu'ils chantaient. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire pour moi. Après, on va peut-être me dire que c'est des émotions, mais c'est quand même des émotions qui durent depuis plus de 40 ans. Et grâce à ça, toute ma famille est venue au Seigneur, mon papa, ma maman, mon frère. Et on a aussi côtoyé pendant un temps des gitans qui, on les a entendus chanter avec un mauvais français, avec plein de fautes, mais qui, pareil, transmettaient quelque chose d'extraordinaire. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'il y a une des particularités. Autant au moment de la réforme protestante, le chant a transmis une doctrine. Aujourd'hui, le chant transmet aussi un état d'esprit, je pense, au XXIe siècle. Un enthousiasme, je vois, avec les jeunes générations. Hein, et donc là, c'est moins un contenu qu'une façon d'être, de vivre la foi. Et donc, il y a aussi une place pour des chants comme ça, bien entendu. Hein.
Et juste une petite anecdote. Les anabaptistes utilisaient des mélodies du bistrot. Et ils ont changé le contenu et ils ont essayé de faire l'évangélisation vers les autres parce que les gens ont entendu les mélodies qu'ils les connaissaient bien. Mais quand ils écoutaient le contenu, c'était complètement autre. Donc...